On continue la petite série qu'on a commencée il y a quelques semaines sur chercher la face de Dieu. Aujourd'hui, la partie qu'on va regarder, c'est quels sont les avantages de rechercher la face de Dieu. Qu'est-ce que ça donne à une personne de rechercher la face de Dieu? Une personne peut dire, moi, mon compte de banque est bien plein. J'ai pas besoin de rien. Un autre va dire, moi, j'ai rien, mais je me suis contenté avec ce que j'ai pas, puis je suis heureux de même, puis je veux pas changer. Il y en a d'autres. En tout cas, il y a plein d'idées qui peuvent être répondues sur du monde qui croit pas. Mais pour ceux qui croient, quels sont les avantages pour celui qui cherche la face de Dieu? Il y en a plein d'avantages. Il y a plein de bénédictions. Le Seigneur en réserve de riches bénédictions qu'il propose de donner à tous ceux qu'il cherche de tout leur cœur. C'est écrit, il y a des centaines de promesses dans la parole, puis la bonne nouvelle, c'est que Dieu, il est pas menteur. Ce que Dieu promet, il est capable de l'accomplir. Puis c'est pas un gars qui donne, puis qui enlève, puis qui donne, puis qui enlève, comme qu'on voit aujourd'hui dans ce monde. Dieu, il a promis, puis quand on va arriver, ses promesses vont s'accomplir. Tout ce qui est là, c'est oui et amen. Tout ce qu'on a à faire, c'est de dire, Seigneur, oui, on veut ce que tu as à nous donner. Quels sont les avantages de rechercher la face de Dieu? Il y en a plein. Comme un exemple dans 2 Chroniques 16, le verset 9. « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux qui ont le cœur tout entier à lui. » Dieu nous dit déjà qu'il a ses regards sur la terre, puis il cherche. Dieu cherche. Dieu cherche des gens qui veulent mettre toute leur confiance, tout leur cœur envers lui. Dieu se cherche des gens qui veulent être en amour avec lui. Il cherche des gens qui cherchent sa face. Dieu, il est prêt, puis il cherche, puis il fouille. Je dis pas qu'il en trouve beaucoup. Il n'y a peut-être pas beaucoup qui cherchent vraiment de tout leur cœur. Mais il y en a. Puis si nous, on entend ce message-là, puis on dit, Seigneur, t'as-tu quelque chose pour moi? Puis là, on va voir des passages, on va dire, Seigneur, je veux chercher ta face, je veux te trouver, je veux marcher, qu'on se regarde face à face. Moi, je te regarde de tout mon cœur, puis lui, il a ses regards vers nous, parce que Dieu nous dit qu'il soutient ceux dont le cœur est tout entier à lui. Comment est-ce qu'on aimerait ça? Savoir et expérimenter le soutien de Dieu. Que Dieu sera avec nous. On a des exemples de personnes comme ça dans l'Ancien Testament. Moïse marchait avec Dieu. Qu'est-ce qui s'est produit quand c'était le temps de sortir le peuple d'Israël? Les miracles, les signes, les prodiges, les 10 plaies d'Égypte, là, c'était puissant. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Le cœur de Moïse était vers Dieu, puis le cœur de Dieu était vers Moïse. Puis Dieu guidait Moïse dans ce qu'il avait à faire. Tous les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, leur exemple de vie, c'était comme ça. Des gens qui cherchaient la face de Dieu, puis expérimentaient la présence de Dieu. Ça s'expérimente. Une relation avec notre épouse, ça s'expérimente. Tu peux l'avoir en théorie, avoir après à l'école qu'il faut que tu aimes une personne, puis il faut que tu en prennes soin, tu pourvois, puis tu l'entoures, puis tu l'aides. Tu peux avoir tout appris théorie. Quand est-ce que tu vas vraiment goûter ce que c'est? C'est quand tu te maries. Puis là, tu l'as là, dans tes mains. Elle est à côté de toi. Là, l'un l'autre, on s'aime. Puis là, on développe quelque chose. Mais tu as beau avoir entendu parler. C'est super de rêver qu'on va se marier et qu'on va être heureux. Mais quand tu l'expérimentes et que tu es heureux et tu le vis, ça, c'est encore meilleur. Fait qu'on peut désirer à vouloir voir la main de Dieu, en théorie, c'est super. Mais quand que Dieu est avec toi, puis que Dieu exauce tes prières, puis Dieu t'accompagne, puis Dieu te guide, puis Dieu te montre le chemin, il se passe des affaires que tu vis, puis c'est extraordinaire. Merci Seigneur. Dieu cherche des personnes à bénir. C'est ça que ça dit ce verset-là. Il cherche des gens sur la terre, il regarde avec son regard partout pour essayer de voir, y a-tu quelqu'un qui me regarde? C'est ça que Dieu dit, là. Y a-tu quelqu'un qui m'aime ici sur la planète? Y a-tu quelqu'un qui veut être béni par moi? C'est ça qu'il nous dit. Dieu cherche quelqu'un qui a soif de Dieu, qui veut connaître Dieu, qui veut découvrir Dieu, qui veut marcher avec Dieu. C'est ça de rechercher la face de Dieu. Puis Dieu se cherche des hommes. Dieu, il est à la recherche de personnes qui sont en amour avec lui. C'est ça que ça veut dire aussi. Est-ce qu'on est en amour avec lui? Puis c'est ça qu'il faut développer, frères et sœurs. Qu'on soit pas juste, oui, je le sais, puis je vote pour Jésus. Oui, c'est correct, voter pour Jésus. Mais la vie chrétienne, c'est plus qu'un vote pour lui. C'est une vie que tu as pour lui. C'est encore plus grand que ça. Tu décides de vivre pour lui. Tu as beau voter, oui, elle, cette femme-là est belle. Oui, je vote pour elle, elle est belle. Mais tu n'as pas encore eu rien tant que tu t'es pas marié avec, puis que tu vis avec. Ça se passe quand tu l'expérimentes, ça. Mais Dieu, c'est la même chose. Tu peux aller plus que juste voter pour lui. Tu peux vivre quelque chose. Puis Dieu se charge du monde pour vivre ces quelque chose-là. Il veut soutenir Dieu. Il veut soutenir ceux qui s'attachent à lui de tout leur cœur. Il y a une bénédiction que Dieu nous parle dans la parole dans l'Ancien Testament, qu'un bénéficiaire de Dieu, là, ceux qui ont vraiment découvert Dieu, cette relation-là avec Dieu, il y a une bénédiction qu'on peut donner aux autres qui n'ont pas encore découvert Dieu. Vous savez, quand j'ai parlé de l'évangélisation, il dit, tu rentres dans une maison pour évangéliser, tu dis, le royaume de Dieu s'est approché de vous. La deuxième affaire, vous dites, shalom, que la paix soit sur cette maison. Puis s'il se trouve là un enfant de paix, la paix de Dieu va tomber sur lui. Ça, c'est une des bénédictions qu'on peut donner aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais il y a une autre bénédiction qu'on va voir ce matin, puis ça a rapport avec le sujet du message, de rechercher la face de Dieu. Ces gens-là ne connaissent pas Dieu, mais tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est qu'ils trouvent Dieu, qu'ils se mettent à le chercher, puis à le recevoir, puis à vivre les expériences. La phrase là, qui est comme une bénédiction qu'on peut prononcer, c'est dans Nombre 6, le verset 25. Il y a plusieurs bénédictions décrites dans l'Ancien Testament, dans ces passages-là, pour dire aux autres que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, qu'il ait son regard sur toi. Mais celle-là qu'on va voir dans Nombre 6, 25, il dit que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Fait que nous, qu'on a reçu, puis on goûte, puis on expérimente, puis on marche avec le Seigneur, on peut commencer à bénir ceux qui connaissent pas le Seigneur, puis leur souhaiter, comme dans le chant de Luc Gingras, « Laisse-moi te souhaiter Jésus. » Ça sera le meilleur souhait que tu peux souhaiter pour les autres. Mais dans ce verset-là, ça dit « Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. » Le message dit « Quels sont les avantages de rechercher la face de Dieu? » Puis là, on pourra bénir les gens. Il dit « Que l'Éternel tourne sa face vers toi. » On souhaiterait que Dieu ait les regards sur lui, pour que Dieu ait les regards sur lui, puis qu'il accorde ses grâces, il faut que cette personne-là se tourne vers Dieu. Fait que quand tu es en train de lancer cette bénédiction-là, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, tu es en train de dire que l'Éternel mette en place ton cœur pour recevoir, pour être disposé, pour être tourné vers le Seigneur, pour que le Seigneur puisse te bénir. Parce que Dieu bénit pas ceux qui marchent loin de sa face. Fait qu'on peut proclamer dans le nom de Jésus que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde ses grâces. Puis cette personne-là, Dieu peut la revirer pour qu'elle se mette à chercher Dieu. Puis là, Dieu va accomplir ta parole que tu viens de prononcer. C'est une bénédiction. Autant quand je vous dis que le Seigneur vous bénisse, quand on se salue, ben moi, je crois que Dieu va vous bénir. Parce que Dieu nous dit qu'on est appelé à bénir les autres. Fait que quand tu dis que le Seigneur te bénisse, la bénédiction va descendre. Tu rentres dans une maison pour évangéliser, tu dis que la paix soit sur cette maison. S'il reçoit le message, la paix va tomber sur lui. Vous pouvez dire aux gens que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde ses grâces. Merci Seigneur de nous donner cette belle parole-là. Mais qu'est-ce qu'on a comme avantage quand on accepte Jésus, quand on reçoit, quand on cherche la face de Dieu, plutôt? Qu'est-ce que ce sont les avantages? Bien, la première bénédiction que nous obtenons de la part de Dieu, c'est le salut puis la vie éternelle. Il n'y a pas plus grande bénédiction que ça, que de savoir que notre nom est inscrit dans le livre de vie. On s'en va au ciel! Puis ça finira jamais! C'est la vie éternelle. C'est une super de bénédiction de savoir que lorsqu'on meurt, Dieu va nous redonner un corps quand ça va être le temps, il y a un petit délai peut-être, puis il va nous redonner un corps, puis on va vivre l'histoire sans fin. Alléluia! Je sais pas si vous avez hâte de vous rendre, moi j'ai hâte.
Une question de temps.
Une question de temps. Dans Isaïe 53, le verset 3, Dieu nous dit, « Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. » C'est ce que Dieu veut faire. Il veut traiter une alliance éternelle. Tantôt, j'ai dit que Dieu regarde partout pour essayer de trouver quelqu'un qui cherche Dieu, qui est en amour avec Dieu, qui aime Dieu tout son cœur. Dieu, il en cherche. Mais il est en train de dire aux autres qui l'ont pas encore trouvé, il leur dit, prêtez l'oreille, venez à moi. Il les invite, il les appelle, écoutez, et votre âme vivra. Dieu propose la vie éternelle. Puis il dit, je vais faire avec vous une alliance éternelle. Si on s'arrête, puis on commence à regarder, ouais, ce Dieu-là, il y a de quoi me dire. Puis on commence à fouiller. On recherche sa face et aller aussi consulter son livre pour connaître ce qu'il a dit, ce Dieu-là. La Bible, c'est le livre de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la source, unique source de les paroles de Dieu. Il n'y a pas d'autre source que la plus principale. C'est ce qui est écrit. Tu te trompes pas. Ce qui est dit par Dieu, ça va s'accomplir. Dieu, il est pas menteur. Mais il nous dit, écoutez, puis votre âme va vivre. Jésus, il a reformulé cette bénédiction-là, cette promesse-là. Jésus, lui, dans Marc 8, 34, là, il a appelé la foule avec ses disciples, tout le monde était devant lui, puis là, il dit, si quelqu'un veut venir après moi. Dans l'autre verset, dans l'ancien, ça dit, venez à moi, prêtez l'oreille, écoutez, puis votre âme va vivre, puis vous allez avoir la vie éternelle. Mais ça nous dit, Jésus a repris cette bénédiction-là, il dit, il a appelé la foule, puis il dit, si quelqu'un veut venir après moi, ouais, si tu veux venir avec moi, là, écoute, apprenez, là, écoutez, soyez attentifs, si vous voulez venir où est-ce que je m'en vais, c'est dans la vie éternelle. Renonce à toi-même, prends ta croix, suis-moi. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Dieu, maintenant, dans la nouvelle alliance, appelle les gens puis leur dit, prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez. Écoutez, prêtez l'oreille, venez à moi. Jésus dit, venez à moi. Vous voulez venir avec moi? Mais il dit, prends ta croix puis suis-moi. Renonce à toi-même. Prends ta croix et suis-moi. Puis si t'es prêt à perdre ta vie pour vraiment dire, je veux suivre Jésus, parce que ta vie sera plus pareille quand tu vas t'engager à suivre Jésus. Jésus, il va changer ta vie. Il va te transformer. Tu vas être une nouvelle créature. Tu te reconnaîtras pas. Tu vas être différent. Tu vas penser différemment. Plus tu vas grandir dans le Seigneur, puis plus que tu vas découvrir cette nouvelle vie qu'il est en train de faire en toi. Puis, tu vas être en train de perdre ta vie du passé, ta vie de péché, ta vie de rébellion, mais ta vie va ne faire que s'améliorer. Si tu perds ta vie pour suivre Jésus, il dit, pour suivre Jésus et pour la bonne nouvelle, il dit, tu vas la sauver ta vie. Tu vas avoir la vie éternelle. Puis on est appelés, frères et sœurs, on est appelés à nous qui sommes engagés à ce chemin-là, à persévérer dans ce chemin-là, suivre Jésus, renoncer à nous. On veut davantage que Dieu soit glorifié dans nos vies. On cherche la face de Dieu, on veut que Dieu soit glorifié dans nos vies, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on agit dans ce monde. Dieu, des fois, il l'est pas, puis ça, il faut s'en repentir, mais Dieu l'est quand on marche par la foi, puis qu'on proclame sa parole, qu'on proclame le nom de Jésus, on confesse son nom, on le prie, on cherche sa face, on travaille sur nous-mêmes pour demander à Dieu de changer de ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies, mais Dieu, ça le glorifie, puis Dieu y intervient, puis Dieu nous bénit. Merci Seigneur. C'est une bénédiction, ça. Quand tu cherches, tu veux tourner ton regard vers Dieu pour chercher Dieu, Parce que tu veux que Dieu fasse quelque chose sur toi. Si tu le fais, lui, Dieu cherchait déjà des gens qui sont prêts à vouloir être changés. C'est là que Dieu va commencer l'œuvre. Tu vas vivre quelque chose. Mais il faut s'accrocher. Il faut persévérer. Chercher Dieu de tout notre cœur, ça nous maintient dans une communion avec lui. Quand tu as commencé cette relation avec lui, le fait de continuer à chercher sa face, parce que tu ne cherches pas sa face avant d'être chrétien, juste avant d'être chrétien, je veux dire, c'est qu'à un moment donné, tu acceptes Jésus, là, tu as cherché sa face, tu l'as découvert, tu lui donnes ta vie, tu t'engages à le suivre, tu es dans le chemin, mais tu continues encore à chercher sa face. Faut que tu continues encore à chercher sa face, pas juste quand tu l'as accepté, toute ta vie. Parce que tu vas développer, en cherchant sa face, tu vas développer une relation intime avec lui, une intimité. Comme je disais tantôt, l'homme avec sa femme, c'est découvert après le mariage. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Avant que tu l'entends en théorie, mais au moment que tu lui donnes ta vie, là, tu viens de le découvrir. Tu es sauvé, tu as la vie éternelle, mais là, tu commences un nouveau chemin. Puis là, dans ce chemin-là, tu commences à expérimenter la communion avec Dieu, de maintenir cette communion-là. Dans Jacques 4:8, ça dit « Approchez-vous de Dieu », ça parle à des chrétiens. La lettre est écrite pour les chrétiens dans la dispersion, les frères dans la dispersion. Ça dit « Approchez-vous de Dieu, puis il s'approchera de vous ». Fait que ça, c'est en permanence, toute notre vie, nous devons nous approcher de Dieu. Puis pour devenir de plus en plus proche de Dieu, des fois, il faut enlever des affaires dans notre vie. C'est des affaires qui font des blocages. C'est comme un mur qu'il y a devant nous. Puis des fois, c'est plus qu'on s'endurcit, plus qu'on pêche, plus que le mur s'épaissit. Tu peux être chrétien, puis pas le vivre le contact. Mais si tu restes dans le même, tu seras pas appelé un chrétien, ça sera pas long. Tu vas être appelé quelqu'un qui a perdu sa communion. Tu peux pas être chrétien sans la communion avec le Saint-Esprit. Tu peux pas dire « Je suis Dieu, je le suis ». Pas que je le suis, c'est que je le suis. Tu es dans le chemin. Tu peux pas dire « Je le suis » si tu n'es même pas en contact. Si tu as perdu le contact, tu le suis plus. Tu es perdu, tu es égaré. Faut que tu reviennes dans le chemin. Faut que tu retrouves le contact. Là, il faut que tu dises, il dit dans ce passage-là, « Approchez-vous de Dieu, puis il s'approchera de vous. » Ça sous-entendait qu'il y avait comme un petit éloignement entre les deux. Là. C'est pas une chose acquise d'être toujours en plein contact. Autant que Dieu il a dit que je vais être avec vous tous les jours, puis qu'il a dit « Je vais vous donner le Saint-Esprit, puis la promesse est pour jusque dans la vie éternelle. » Oui, mais c'est pas automatique, puis ça se fait pas tout seul. Il y a notre part là-dedans à compte. Comment est-ce qu'on l'entretient? Tu as beau dire, ma femme, master, elle est obligée de faire ce que je dis. Pas besoin d'écouter. Faut pas que tu penses que ta femme est acquise, puis que tu peux y faire passer tous les mauvais quarts d'heure qui existent, là. Tu sais, puis penser qu'elle va rester toujours à côté de toi. Elle m'a amené qu'à force de dire des bêtises, elle m'a amené à être tannée. On veut pas dire « amen » à cela. On va dire « ouch ». Faut pas que ça arrive, ces affaires-là. Mais faut que tu travailles ça pour essayer de rapprochement. Tu peux être marié et être loin de ta femme. Puis même plus vivre dans la même maison. Ou de plus se parler puis de se bouder. Mais avec Dieu, c'est la même affaire. Puis c'est pas parce que Dieu nous boude. C'est nous qui a pris des chemins qui fait qu'on s'éloigne. Puis là, il nous dit « rapprochez-vous. » Mais quelle bénédiction je vais avoir si je cherche la face de Dieu, c'est que je vais pouvoir goûter en permanence une communion avec lui, d'être rempli de sa présence, puis il va être avec moi. Le message des apôtres était dans le même but, de nous faire part de leur découverte. Les apôtres l'avaient découvert. Puis ils nous invitent à être en communion avec Dieu et avec eux. C'est ça que les apôtres nous ont donné comme message. Dans Jean 1, 3, c'est ce que ça nous dit. Les apôtres qui parlent, l'apôtre Jean dit, « Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. » Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Fait que l'appel de Dieu, c'est que nous soyons en communion avec le Père et en communion avec les frères et sœurs. Puis tout ce qui nous a été écrit dans la parole de Dieu, c'est dans le but de nous annoncer ce qu'ils ont vu et qu'ils ont entendu. Ils ont vu Jésus, ils ont entendu Jésus. Puis là, Jésus, c'est l'ouverture pour la communion avec le Père, puis la communion avec les frères et sœurs. Ça, on est appelé à rentrer dans cette communion-là. Oui. Puis ça, c'est une bénédiction qu'on reçoit quand on cherche la face de Dieu. Tu recherches la face de Dieu, tu vas chercher à t'approcher de Dieu. Dieu va s'approcher de toi. Là, tu vas être en communion avec le Père et le Fils et avec les frères et sœurs. Si on tolère des choses dans notre vie qui ne sont pas de Dieu, puis qu'on se refroidit dans notre communion avec Dieu, puis qu'on s'éloigne parce qu'il y a des péchés, puis toutes sortes d'affaires non confessées, de la rébellion peut-être, ou des convoitises qui embarquent, qu'on embarque dans le piège du diable, mais là, on s'éloigne de Dieu. Notre communion n'est plus pareille avec Dieu, mais plus pareille non plus avec les frères et sœurs. On va aller à l'église du reculon, puis on a peur d'être jugé parce qu'on se sent coupable. On ne se sent pas dans la paix de Dieu. C'est pour ça que quand on est dans cet état-là, qu'on ne sent pas la communion avec les frères et sœurs, mais il faut regarder c'est où le problème. Est-ce que je suis en plein contact avec Dieu? Puis si je ne le suis plus, il faut que je retrouve ça, il faut que je m'approche de Dieu, il faut que je cherche la face de Dieu, je m'approche de Dieu, puis lui va s'approcher de moi. La communion va se rétablir, puis là on va être en communion avec les frères et sœurs par le Saint-Esprit. C'est une bénédiction qu'on reçoit quand on cherche la face de Dieu.
Là, on peut dire amen.
Amen, gloire à Dieu. Si nous avons soif de Dieu, notre être intérieur en sera désaltéré. Il y a une bénédiction qui se passe en dedans de nous quand on est en pleine communion avec Dieu. Ça nous dit, c'est Jésus qui parle, dans Jean 4, 14. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Fait que, voulez-vous être abreuvé de cette source d'eau?
Toujours.
Amen. Gloire à Dieu. Il dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Ça veut dire, Dieu il se propose de déverser quelque chose en nous. C'est pas de l'eau physique. Celle-là, tu as toujours soif quand tu en bois, celle-là. Mais quand tu as connu la communion avec l'Esprit-Saint, c'est ce que Dieu se propose de déverser. Là. Il veut non seulement désaltérer notre âme intérieure, mais il veut même nous utiliser pour que ça arrose les autres. Merci Seigneur. Ça veut dire que si tu cherches la communion avec Dieu, tu cherches la face de Dieu, tu vas vivre des affaires intenses que ton âme va être désaltéré, tu vas être abreuvé de quelque chose que tu n'auras plus jamais soif. Puis tant que tu demeures là-dedans, tu te sens à la bonne place, tu te sens connecté, tu te sens en paix, tu te sens dans la joie, tu es heureux. T'as beau que l'extérieur soit tout cassé, que tu sois dans la rue, plus d'argent, plus rien. Mais ce que tu as à l'intérieur, tu le gardes précieusement, puis il n'y a personne qui peut te l'enlever, c'est la communion avec Dieu. Ça, il faut développer ça. Puis là, quand tu vas le vivre, tu vas être désaltéré. Tu n'auras plus jamais soif. Puis si nous cherchons Dieu, la maintenir à chercher Dieu dans notre vie, parce que, comme je l'ai dit, c'est pour toute notre vie qu'il faut le chercher, on va être encore plus que désaltéré. Dieu va nous utiliser pour arroser les autres. Plus tu vas être rempli du Saint-Esprit parce que tu cherches la face de Dieu, tu cherches à en avoir plus, il va vivre en toi, tu vas être heureux, tu vas être dans la paix, tu vas être rafraîchi, tu vas être restauré, tu es rassasié, mais en plus, ça va sortir de toi puis ça va arroser les autres. C'est ce que ça nous dit dans Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Ça veut dire que Jésus ne l'a pas annoncé qu'une fois, ce passage-là. On vient d'en voir deux passages qui nous parlent d'aller à Jésus et boire. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Puis il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, de son intérieur. Le sein, c'est l'intérieur. Ça va sortir de nous, puis ça, des fleuves d'eau vive vont couler et arroser ceux qui nous entourent, puis les autres vont être bénis. On va être une source de bénédiction pour les autres. On va proclamer que Dieu soit avec toi. Dieu va, ou que, comme le verset qu'on a lu tantôt, que Dieu fasse luire sa face sur toi, puis Dieu va le faire. À cause que la source est là, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur paix, que le Seigneur te donne sa paix. Puis là, il y a toutes sortes de bénédictions qui vont sortir de nous, qui vont atteindre les gens. On va arroser les gens. On va être un utilisé par Dieu pour répandre sa bénédiction dans ce monde qui est maudit. Parce que la seule source de bénédiction vient de Jésus. Puis il dit, si tu as soif, mais va à Jésus, puis bois. C'est là que ça se passe. Cherche la face de Dieu, cherche Jésus dans ta vie. Tu vas aller à lui, puis il va mettre en toi cette source d'eau vive. Premièrement, il va te pardonner de tes péchés, mais il va mettre après ça cette source d'eau vive, c'est le Saint-Esprit qui veut donner à tout le monde. Amen. On en veut, on en veut. L'approche de Dieu nous remplit de sa présence, puis nous serons en mesure de nous édifier et capables d'offrir un culte agréable à Dieu. Sans le Saint-Esprit, on peut pas plaire à Dieu. Sans être rempli du Saint-Esprit, tu peux pas plaire à Dieu. Si tu marches selon la chair, tu peux pas plaire à Dieu. Or, ceux qui marchent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. C'est écrit. Tu peux être chrétien puis marcher selon la chair. Faut que tu apprennes à marcher selon l'Esprit, puis marcher dans l'Esprit, mais faut que tu sois en, les regards à chercher la face de Dieu. Si tu cherches la face de Dieu, tu vas en être rempli de sa présence, parce que Dieu, il cherchait quelqu'un qui l'aime de tout son cœur, parce qu'il veut le soutenir, il veut le bénir, il veut l'accompagner. Dans 1 Pierre 2, les versets 4 à 5, ça nous dit encore, « Approchez-vous de lui! » Dieu, Jésus, « Approchez-vous de lui! » C'est le Créateur, puis il veut nous abreuver. « Approchez-vous de lui! » Pierre vivante en parlant des chrétiens, rejetés par les hommes. Pourtant, il parle à des chrétiens, là, mais il dit aux chrétiens, approchez-vous de lui. C'est pas, là, ça, j'en ai pas mal, Seigneur, j'en ai assez. Non, approche-toi encore plus de lui. Cherche encore plus sa face. Mais vous êtes des pierres vivantes rejetées par les hommes, mais choisies et précieuses devant Dieu. Dieu, il trouve qu'on est des pierres précieuses. C'est quoi ça, des pierres précieuses? Des diamants, des rubis, des émeraudes, des saphirs. On est des pierres précieuses. Pour Dieu, là, il regarde la planète, il n'y a rien d'autre d'important sur la planète que ceux qui se sont donnés à lui. C'est nous qui sommes sa richesse, sa bénédiction. Ce qu'il trouve de plus, le plus beau de sa planète, c'est pas les chats et les chiens. C'est pas les humains qui sont rebelles puis méchants. C'est ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur. C'est des pierres rejetées par les hommes, mais Dieu, lui, voit ça comme des pierres précieuses. C'est des pierres choisies par lui, puis c'est ça qu'il va avoir. Puis là, il dit, approchez-vous de Dieu. Puis là, ça dit, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ça veut dire que si on se met ensemble, on est connecté, comme on disait tantôt, rempli du Saint-Esprit, en communion avec Dieu, tu es en communion avec les frères et sœurs, là on est capable de s'édifier pour être une habitation de Dieu en esprit, où ce que la présence de Dieu va régner dans l'Église. Puis là, ça nous dit dans ce passage-là que là, on va être capable d'offrir à Dieu des victimes spirituelles qui sont agréables. On va être capable, des victimes spirituelles, c'est un sacrifice. d'offrir une vache ou un taureau ou un agneau, mais spirituellement parlant, c'est nos louanges, notre adoration, notre culte, nos célébrations, tout ce qu'on fait, on l'offre à Dieu, puis Dieu va trouver ça agréable. Pourquoi qu'il va trouver ça agréable? Parce qu'on est tous remplis, on est tous en communion avec lui et les uns avec les autres. On devient une habitation de Dieu en esprit. L'Église est une habitation de Dieu en esprit lorsqu'elle est connectée avec Dieu. Il faut que tout le corps de Christ apprenne à avoir soif de Dieu puis de s'approcher encore plus de lui. Amen. La recherche de Dieu obtient les promesses de l'exaucement, de la restauration puis de la guérison. On voit ça dans un passage dans l'Ancien Testament, dans 2 Chroniques 7, le verset 14. Ça parle au peuple de Dieu, ce verset-là. Ça parle pas aux gens du monde. Des fois, tu devrais mettre ça en pratique. Commençons par le mettre en pratique nous-mêmes. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, c'est qui ça, son peuple? C'est nous. C'est qui invoque son nom? C'est nous. Fait que ce verset-là, c'est pour nous. Ceux qui l'ont déjà découvert. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Savez-vous ce que ça veut dire, s'humilier?
Ça te donne au complet.
Tu te donnes, mais s'humilier dans le sens du mot, c'est de se considérer qu'on n'est rien. On est capable de se mettre à genoux devant Dieu. Les orgueilleux, c'est hautain, c'est le contraire. Ils s'élèvent, ils cherchent à s'élever. Ceux qui cherchent à s'humilier, ils cherchent à pas se penser meilleur que les autres. Tu laisses la place à Dieu, puis même vis-à-vis les autres aussi, entre les gens qui nous entourent, qu'on n'ait pas une trop haute estime de nous-mêmes, puis on considère les autres comme étant plus grands que nous-mêmes. C'est ce que ça dit. Fait que s'humilier, c'est on se pense pas meilleur. Si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face. J'ai dit tantôt, t'es chrétien, t'as accepté Jésus, t'as cherché sa face pour le découvrir, pour le salut, mais après ça, il y a plein de versets qui disent, continue à t'approcher de Dieu, continue à chercher sa face. Là, on parle de son peuple qui s'humilie, il prie, puis qui cherche sa face. Il faut continuer à chercher la face de Dieu. Et, un autre point, qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Ça veut dire que tu vas t'humilier, tu vas prier, puis tu vas chercher à avoir plus de la présence de Dieu dans ta vie. Tu cherches ta face, mais en même temps, tu ôtes les péchés dans ta vie. Parce que ça l'empêche de nous remplir, ça l'empêche de nous bénir. Si on fait ça, il y a une super promesse. Ça dit, je l'exaucerai des cieux. Dieu va nous exaucer. Fait que tu as une promesse d'exaucement. Il dit, je lui pardonnerai son péché. Tu as une promesse de pardon. Et je guérirai son pays. Tu as une promesse de restauration. Pas juste pour toi. Parce que partout ce que tu vas passer, tu vas être une source. Puis la bénédiction va s'étendre dans ton pays. À cause qu'on est rempli du béni. Qui bénit, c'est Dieu. Mais il faut enlever tout ce qui nuit. Faut pas se penser meilleur. Faut pas penser qu'on a assez prié. Faut pas penser qu'on est assez proche de Dieu. J'y ai parlé 5 minutes en me levant un matin. Parce que ma vie spirituelle est comblée. Puis je suis encore dans le péché dans la journée, je blasphème, puis je vole, puis je mens, puis je convoite, puis je pêche de toutes les manières, avec mes yeux, avec mes pensées. Chercher la face de Dieu, il faut que tu t'éloignes aussi du péché. Fait que Dieu cherche des gens qu'il cherche de tout leur cœur, puis là, tu as une super promesse d'exaucement, de restauration, puis de guérison. Dieu veut agir à travers de nous, mais il faut rentrer dans ce moule-là. Pour ceux qui cherchent la face de Dieu, Jésus a promis qu'il renouvellera nos forces. Il va faire de quoi dans notre corps puis dans notre âme? Dans Matthieu 11, 28, ça dit, Jésus qui parle, « Venez à moi! » Jésus qui dit ça, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions. C'est ça la petite clause, là. Il y a une petite condition. Faut que tu y ailles à lui, mais aller à Jésus, c'est pas suffisant. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont été à Jésus. Tu les vois pas. Ils sont rendus. Ils ont resté dans leur vie. Ils ont été à Jésus. Ils ont voté pour Jésus, mais ils sont pas là. Jésus dit, prends mon joug, puis reçois mes instructions. Faut marcher avec le Seigneur, puis marcher en sa parole. Là, il dit, je suis doux et humble de cœur, puis vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Quand tu t'engages à suivre Jésus, tu décides de changer de vie. Là, tu te mets à dire, Seigneur, c'est quoi ta parole? C'est quoi tu m'enseignes dans ta parole? Quel mode de vie? Ou qu'est-ce qui te déplaît dans ma vie? Puis Seigneur va t'en montrer des affaires. Il va te montrer des affaires pour que tu dises, Seigneur, faut que là, tu vas dire, ouch, ou je suis pas prête, ou je veux pas lâcher. Mais Jésus a dit tout serment qui est une branche de vigne, qui est en moi, puis qui porte du fruit. Il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Émonder, ça veut dire couper les branches inutiles. Ça veut dire que le Seigneur commence un travail dans celui qui va à Jésus. Tu reçois les instructions, puis là, il y a un travail d'émondage qui se fait. Tu trouves peut-être ça raide un peu d'être obligé à appliquer dans ta vie de nouvelles règles, parce qu'en réalité, avant d'être chrétien, tu n'en veux pas de règles. Tu veux vivre libre de faire tous les péchés qui sont devant toi. Mais là, le Seigneur va te montrer des affaires. Tu peux plus faire ça quand tu es chrétien. Touche plus à ça. Fais pas ça. Marche par là. Il va te montrer ton chemin. C'est des instructions qu'il faut recevoir et les vivre. Puis une fois que tu les vis, tu vas goûter le repos qui vient du Seigneur. C'est une belle bénédiction de s'approcher de Dieu puis de vouloir obéir, puis lui, il va s'occuper de ton état, de ton âme. Merci, Seigneur. Oui. Son onction, c'est le Saint-Esprit. Puis il va faire l'œuvre en toi, puis il va t'aider à te débarrasser ce qui doit être débarrassé. Tu vas comprendre en écoutant les enseignements, les instructions, en lisant la Bible, en méditant ou en écoutant des prêches, tu comprends c'est quoi le chemin d'un chrétien, puis tu restes dans ce chemin-là. Puis quand tu es dans ce chemin-là, c'est comme un joug que tu as pris. Puis le joug, là, c'est un morceau de bois qu'ils mettaient sur un bœuf. Puis après cela, le morceau de bois qui était après le bœuf, attaché après le bœuf, ils mettaient des attelages, puis il y avait la charrue en arrière attelée, attaché après le morceau de bois qui était sur le bœuf. Puis le bœuf, lui, avance. Puis là, le gars est en arrière, puis il sert de la force du bœuf pour faire avancer la charrue. Puis là, il laboure. Il a revêt la terre. Fait que le travail, c'est sûr que le bœuf, il force. C'est sûr que le bœuf, il a un joug sur le dos. Il a accepté le joug. Mais il n'a pas accepté le bœuf, mais il n'a pas eu le choix. Mais nous, on a un joug à accepter, c'est celle de Jésus. Il faut se rentrer dans l'attelage de Jésus. Puis là, Jésus dit, avance. Suis mes instructions. Là, il est avec son bâton, là, à gauche, à droite. Il nous guide. Puis là, il travaille la charrue, puis là, le travail se fait. Parce qu'on a embarqué. Il dit, mon joug est doux. C'est ce que ça dit. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Des fois, on pense que c'est difficile d'être chrétien. Mais quand tu es rempli de la présence du Seigneur, c'est pas si difficile que ça. T'avances, puis tu es heureux d'être là. Ça te sécurise, tu es béni. Tu vis des affaires, tu es exaucé, il se passe des choses que tu es heureux. Puis, il restaure ton âme. Merci Seigneur. Lorsque nous sommes à la recherche de Dieu, il nous assure sa protection. Le Seigneur veut nous bénir sur tous les côtés. Paul en parle que lui-même, il avait expérimenté la protection de Dieu dans sa vie. Il a exposé sa vie pour s'afficher publiquement dans un monde hostile. Dans ce temps-là, le monde était hostile à la parole. Il lapidait le monde, lui-même, Paul, quand le monde parlait de Jésus. Il était un méchant. Puis des méchants comme ça, il y en avait une tonne du monde qui s'opposait à l'Évangile. Puis Paul, il dit, j'ai exposé ma vie. Fait que toute sa vie, à chaque fois qu'il osait parler en public de Jésus, il savait qu'il pourrait avoir des représailles. Puis aujourd'hui, c'est de même aussi dans certains pays. Puis dans notre pays, on a encore la liberté, il faut en profiter. Parce que si jamais un jour, il nous coupe les ouvertures, qu'on ne peut plus parler de Jésus, mais là, on va s'apercevoir c'est quoi que d'exposer sa vie, puis de risquer la prison, des amendes, ou même de se faire maltraiter. Paul, il a exposé sa vie, puis il a vu, il a expérimenté, parce qu'il cherchait l'Éternel de son cœur. C'est un homme de Dieu. Dans 2 Timothée 4, 17 et 18, ça dit que là, il a vécu des combats, puis il dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté et m'a fortifié. Il était connecté avec le Seigneur, puis dans son travail, il dit, le Seigneur m'a assisté, le Seigneur m'a aidé, puis il m'a fortifié. On veut être fort intérieurement, mais il faut s'appuyer sur le Seigneur, puis aller s'approcher du Seigneur, puis le Seigneur va nous fortifier, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Paul dit, il ne visait pas juste quelques personnes dans un village. Tout le monde fallait qu'il l'entende. Quand Paul rentrait d'une ville, il passait à travers la ville. Puis même, il a été dans l'Asie, puis pendant un an de temps, il a évangélisé l'Asie au complet. Lui, c'est de l'évangélisation systématique. Il rentre au point A, puis finit la ville. Quand la dernière porte a été faite, qu'il a rencontré tout le monde, il l'a évangélisé.
Amen.
Wow! C'est un homme qui n'a pas peur d'évangéliser. Puis Dieu s'en chasse en passant des évangélistes. Des gens qui n'ont pas peur d'évangéliser. Puis Paul, il dit, après qu'il ait dit ça, là, afin que tous les païens l'entendent, il dit, « Et j'ai été délivré de la gueule du lion. » Toutes les menaces qui étaient contre lui, il en a été délivré. Il est encore vivant, puis il est encore capable d'écrire des lettres, puis d'envoyer des lettres qui édifiaient des églises, puis qui sont restées 2000 ans plus tard. On a encore ces lettres-là. Il dit, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Non seulement Dieu l'avait délivré, il l'avait assisté, puis il l'avait fortifié, puis il l'avait délivré, mais il dit, il me délivrera. Il était capable de confesser que même dans la suite de sa vie, il va être délivré de la main des méchants. Il était prêt à aller jusqu'à la mort pour suivre Jésus. Puis il l'a prouvé, puisque dans la Bible, ça nous le dit pas, mais dans l'histoire des... Ils ont été jusqu'à la mort. Les premiers apôtres, puis il y en a d'autres chrétiens aussi. Puis il me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Cherche la face de Dieu. Dieu, il va être avec toi. Il va t'assister. Il va te fortifier. Il va te délivrer. Puis on peut le confesser quand le monde vient... Tu peux venir à moi avec tes insultes, tes injures, mais moi je viens dans le nom de l'Éternel. Puis là, Jésus il nous dit de pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps, mais après ils peuvent rien faire, mais de craindre plutôt celui qui peut faire périr l'homme et le corps dans la Géhenne. C'est lui qu'on doit craindre. Fait que marchons, frères et sœurs, laissons-nous pas intimider, avançons par la foi. On est rempli du Seigneur. Marchons par la foi, n'ayons pas de crainte, Dieu est avec nous. Il ne peut pas nous arriver rien de ce que Dieu ne permet pas. Fait que Paul il a été lapidé, il a été mis en prison, il a fait des naufrages, j'énumère toutes ces mauvaises passes, mais il a passé à travers toutes ces mauvaises passes. Parce que Dieu était avec lui, puis il n'a pas abandonné la foi, puis il garde le cap vers la vie éternelle. Ceux qui cherchent la face de Dieu peuvent recevoir de grandes révélations, même des choses cachées. On voit ça dans Jérémie 33, le verset 3. Ça nous dit, invoque-moi, puis je te répondrai que Dieu. Tu cherches Dieu, puis tu l'invoques, puis tu demandes quelque chose. Dieu dit, invoque-moi, puis je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu connais pas. On veut-tu vivre des révélations de Dieu, paroles de connaissance, paroles de sagesse, des prophéties, le discernement des esprits. C'est des dons que Dieu donne. Puis si on l'invoque, on lui demande, comme qu'on a vu dans Jacques, quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, ben nous sera accordé. Fait que ce soit la sagesse, que ce soit les dons spirituels, que ce soit des choses cachées, Tu veux savoir quelque chose? Demande-les à Dieu. Cherche Dieu, Dieu va te le donner. Ceux qui cherchent la face de Dieu démontrent qu'ils font de l'Éternel leur délice. C'est ce que ça nous dit dans le psaume 37, verset 4-5. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-tu beau, ça? Si tu fais de l'Éternel tes délices, pour toi, là, il n'y a rien de plus délicieux dans ce monde que Dieu. Les choses matérielles, il y en a des bonnes pour le corps. Mais il n'y a rien qu'une seule qui est bonne pour l'âme, l'esprit et le corps. C'est la présence glorieuse de notre Dieu. Fais de l'Éternel tes délices, puis il te donnera ce que ton cœur désire. Si Dieu est ton délice, il va te donner ce que tu désires. Il va te donner sa présence. Tu désires tes délices, c'est Dieu, il va te donner plus de Dieu dans sa vie, dans ta vie. Amen.
Amen.
Puis dans le même verset, ça dit, là, il dit, tu fais de l'Éternel tes délices, puis il te donne ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ça veut dire que toi, tu trouves Dieu qui est délicieux, mais il va te remplir de ce que tu trouves délicieux. Puis là, il dit, tu vas recommander ton sort à l'Éternel. Tu vas dire, Seigneur, j'ai tel problème dans ma vie. Mais il dit, il va agir. Merci Seigneur, tu peux savoir des plus belles promesses que ça. Puis c'est confirmé par l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 3:12 qui dit, « Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » On cherche Dieu, on cherche la face de Dieu. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Ceux qui font le mal, ils trouveront pas la face du Seigneur. Faut que tu veuilles changer pour que là, la bénédiction commence à rentrer dans ta vie. Ça prend un chrétien commencer à prophétiser et à te parler de Jésus. Pour répandre la bénédiction, comme qu'on a vu tantôt, on pouvait bénir les gens pour que Dieu se révèle à cette personne-là. Puis le dernier verset, nous sommes tous appelés à nous approcher de Dieu. C'est pas juste pour quelques personnes. C'est sûr qu'on se dit, oui, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Puis là, on se dit, ben moi, j'ose pas y aller parce qu'il n'y a peu d'élus. Mais on fera pas comme les témoins de Jéhovah qui disent qu'il y a juste 144 000 qui rentrent au ciel. C'est un mensonge. Il va y en avoir une multitude innombrable qu'on ne peut calculer de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, de toute nation qui se tiennent devant le trône. Ils sont dans la présence de Dieu, ils sont pas sur la nouvelle terre. Puis c'est pas vrai qu'il y en ait qu'un petit groupe de 144 000. Il va y en avoir une multitude. Fait que pensons pas que vu qu'il y en a peu d'élus, que vous n'avez aucune chance d'entrer. Tout le monde est appelé à rentrer. Dieu veut qu'aucun périsse. Si une personne a été appelée et qu'elle n'est pas devenue élue, c'est pas parce que Dieu ne voulait pas l'élire. C'est la personne qui n'a pas écouté les instructions de Dieu puis rentré dans l'obéissance de son plan. C'est pas à cause de Dieu. Dieu voulait l'avoir avec lui. Mais il fallait que la personne se repente, qu'elle reçoive Jésus-Christ, qu'elle prenne le joug de Jésus et qu'elle marche avec le Seigneur. Si elle ne veut pas rentrer dans ce chemin-là, Jésus dit, « Quiconque veut venir après moi, faut qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra conserver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera pour la vie éternelle. » Alléluia. Gloire à Dieu. Fait que nous sommes tous appelés à nous approcher de Dieu puis à être secourus dans nos besoins. On a vu plein de bénédictions de secours que Dieu veut nous offrir. Puis dans Hébreux 4:16, ça nous dit, « Approchons-nous donc avec assurance. » On peut s'approcher et chercher la face de Dieu avec assurance. Vous n'allez pas avoir de crainte. Ce Dieu-là aime pardonner. Fait que si tu te sens tout croche, m'en dis pardon, puis il va te pardonner. Il renouvelle son pardon à chaque jour. On a juste à lui demander. À continuer à se renier. Puis on se sent peut-être loin aujourd'hui, Mais après-midi, je vais être rempli du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez l'être aussi facilement que ça. Son pardon n'est que tu lui demandes pardon, puis tu lui demandes, puis après ça, tu lui demandes de te restaurer, puis tu vas être restauré. L'ennemi peut te mettre des doutes. Tu les chasses dans le nom de Jésus parce que tu crois au pardon de Dieu. Puis si on croit au pardon de Dieu, bien, on marche dans ce pardon-là, puis on s'approche avec assurance du trône de grâce. C'est le trône de Dieu. C'est de ce trône-là que Dieu déverse toutes ses grâces, tous ses cadeaux, tous ses dons, toute son aide, toutes ses bénédictions. Ça sort du trône. Là, je peux m'approcher de Dieu avec assurance. Puis, je peux avoir confiance que ce Dieu-là, il est prêt à me pardonner, puis il est prêt à me remplir, puis à me bénir, puis à m'amener dans sa présence. Ça nous dit... Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Premièrement, il faut obtenir ton pardon. Et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Nous sommes tous appelés. Approchons-nous donc avec assurance. Tout le monde doit se dire ça. Je vais m'approcher de Dieu avec confiance, Dieu lui-même, puis Dieu veut me pardonner. Puis en plus, je vais trouver grâce pour être secouru dans mon besoin. Gloire à Dieu. Vous avez des besoins? Vous venez de savoir comment faire pour vous en sortir. Il faut se tourner vers le Seigneur puis de croire que Dieu il nous appelle puis il nous tend les bras. C'est encore le temps de la grâce, là. On est à l'an de grâce 2015 après Jésus-Christ. Ils sont peut-être trompés de 5 ans en comptant, mais c'est pas grave, on est à l'an 2015. Le temps de la grâce est encore ouvert, puis Dieu nous appelle à venir. Puis combien de versets je vous ai lus qui disaient de s'approcher, de continuer à chercher. Faut y aller, frères et sœurs. On a un petit effort à faire. Une petite humiliation, des prières, enlever le péché dans nos vies. Chercher la face de Dieu, c'est ça. Mais quand tu le fais, tu vas être béni. Là, je parle à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme leur sauveur personnel. Vous voulez faire partie de ceux qui vont vivre la vie éternelle, puis vous avez raison de le vouloir. Mais je vous le dis, il y a juste Jésus qui est la porte. Je vous invite à faire une prière pour recevoir le Seigneur. Pour le recevoir, pour qu'il vous passez premièrement pour obtenir miséricorde, pour être pardonné de vos péchés, puis ensuite, il va vous donner les bénédictions qui sont écrites dans ces versets-là qu'on vient de lire. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, mais je sais que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je te la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si quelqu'un a fait cette prière-là, sache que Dieu t'a entendu puis Dieu pardonne tous tes péchés. Puis si tu es quelqu'un qui avait déjà le Seigneur, mais que tu vis des problèmes, tu as des difficultés, tu as des combats, tu as toutes sortes de choses difficiles dans ta vie, mais Dieu tend les bras et dit, approche-toi de moi. C'est Dieu qui parle. Approche-toi de moi. Cherche ma face. Rejette le péché de ta vie, puis laisse-moi entrer dans ta vie. Si on cherche la face de Dieu, en persévérant dans cette recherche, Dieu va accomplir fidèlement tout ce qu'il nous a enseigné ici. J'encourage à le faire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.